Puisque tel est le pouvoir du langage, battrons-nous donc soleil comme l'on bat Monet pour le placer en haut de cette page. Y ferons-nous monter comme il monte au zénith? Oui, pour qu'ainsi réponde au sommet de la page l'acclamation du monde à son exclamation. Brillant soleil adoré du sauvage, ainsi débute un cœur de l'illustre Rameau. Ainsi battons soleil comme l'on bat tambour. Battons soleil au champ, battons la générale. Oui, battons d'un seul cœur, pavillon du soleil. Mais tel est grand le pouvoir du langage, que l'ombre aussi est en notre pouvoir. Déjà, prenons-y garde, le soleil la comporte et ce oui la contient. Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Par la même exclamation monosyllabique débute la tragédie. Oui, l'ombre ici déjà est en pouvoir. Nous ne continuerons donc pas sur ce ton. La révolte comme l'acclamation sont faciles. Mais voici peut-être le point. Qu'est-ce que le soleil comme objet? C'est le plus brillant des objets du monde. Oui, brillant à tel point, nous venons de le voir. Il y faut tout l'orchestre, les tambours, les clairons, les fifres, les tubas, les tambourins, la batterie. Et tout cela pour dire quoi? Un seul monosyllabe, une seule onomatopée monosyllabique. Le soleil ne peut être remplacé par aucune formule logique. Car le soleil n'est pas un objet. C'est le contraire d'un objet, c'est un trou, c'est l'abîme métaphysique. Le plus brillant des objets du monde est la condition sine qua non de tous les autres objets. La condition formelle et indispensable de tout ce qui est au monde, la condition du regard même. Et voici ce qui en lui est atroce, vraiment du dernier mauvais goût, vraiment qui nous laisse loin de compte, qui nous empêche de l'adorer. Cette condition sine qua non de tout ce qui est au monde s'y montre, s'y impose, y apparaît. Elle a le front de s'y montrer, et qui plus est, de telle façon qu'elle interdit qu'on la regarde, qu'elle repousse le regard, le renfonce à l'intérieur du corps. Vraiment, quel tyran! Non seulement il nous oblige à être, je dirai tout à l'heure dans quelles conditions, mais il nous force à le contempler. En même temps qu'il nous en empêche et nous interdit de le fixer. C'est un tyran et un artiste, un artificier, un acteur, Néron et nos barbus. Voici en quelques mots ce qui s'est passé. Le soleil qui n'est pas la vie, qui est bien plus que la vie, qui est peut-être la mort, qui est sans doute au-delà de la vie et de la mort, a expulsé de lui certaines de ses parties, les a exilées, et envoyé à une certaine distance pour s'en faire contempler. Envoyé, dis-je, à une certaine distance, distance fort bien calculée, suffisante pour qu'elles refroidissent, suffisante pour qu'elles aient le recul, suffisant pour le contempler, insuffisante pour qu'elles ne soient pas soumises à son attraction et ne doivent pas cesser d'assurer autour de lui leur service de spectateur. Ainsi, elles refroidissent, car il les a vouées à la mort, par le fait même qu'il les a détachées de lui et exilées au service de sa contemplation. Mais d'abord que de les vouer à la mort, et c'est bien pire, il les a vouées à cette maladie, à cette tiédeur qu'on appelle la vie, l'être. Et par exemple, pour l'homme, à ses 37 degrés centigrades, à songer combien plus proche de la mort et la vie cette tiédeur que du soleil, et de ces milliards de degrés centigrades. J'en dirai autant des formes et des couleurs qui expriment la damnation particulière de chaque être, de chaque spectateur exilé du soleil. Ainsi, les corps et la vie même ne sont qu'une dégradation de l'énergie solaire voué à la contemplation et au regret de celle-ci, et bientôt à la mort. Ainsi, le soleil est un fléau. Voyez, comme le fléau, il fait éclater l'Écosse, les écorces. Mais c'est un fléau sadique, un fléau médecin, un fléau qui entretient ses victimes, qui les récrée et s'en fait désirer. Car cet objet éblouissant, un nuage, le moindre nuage qu'il forme, la moindre paupière, suffit à le cacher, et donc à s'en faire désirer. Et il n'y manque pas. Et ainsi, la moitié de la vie se passe dans l'ombre à souhaiter la chaleur et la lumière, c'est-à-dire les travaux forcés de l'adieu. Pourtant, toute cette histoire comporte une moralité, car plongée dans la nuit par le caprice du soleil et sa coquetterie tragique, les objets éloignés de lui, au service de le contempler, tout à coup, voient le ciel étoilé. Il a été obligé de les éloigner de lui pour qu'ils le contemplent, mais voici qu'ils aperçoivent cette myriade d'étoiles et myriade d'autres soleils. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils les comptent et ne comptent leur propre soleil que parmi les autres et non comme le plus important d'entre eux. Le plus proche et le plus tyrannique, certes, mais enfin l'un seulement des soleils. Et je ne dis pas qu'une telle considération les rassure, mais elle les venge peut-être. Ainsi, plongé dans le désordre inouï des nuits, dans le désordre absurde et de mauvais goût du monde, l'homme du moins compte les soleils. Puis enfin son dédain s'affirme et il cesse même de les compter.
Merci. N'avez-vous rien à dire sur l'ensemble de l'émission ?
Oh, non, non vraiment rien. Si j'avais quelque chose à critiquer, ce serait certainement mon propre texte, qui me semble bien insuffisant, étant donné l'importance du sujet. Ah, il y a une chose qui m'est apparue il y a quelques instants et qui me paraît tout de même assez troublante. Voici que cette émission, qui a été retardée plusieurs fois, est enfin enregistré aujourd'hui le 22 juin, qui est justement le jour où le premier jour de l'été est le jour où la Terre est le plus proche du Soleil.